Popol,
le podcast politique
qui donne la parole aux femmes.
Every time I look down on this timeless town,
whether blue or gray be her skies,
whether loud be her cheers or whether soft be her tears,
more and more
do I realize.
Bonsoir, merci d'être là pour ce troisième live de Popol. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir trois intervenantes exceptionnelles. Comme à chaque fois, on va commencer avec Mathilde Arrère. Bonsoir Mathilde.
Bonsoir.
Comment vas-tu?
Ça marche vachement fort. Bah écoute, ça va pas mal.
Merci d'être là ce soir avec nous. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît?
Waouh. Alors, donc, je suis historienne, c'est mon métier. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que tu m'as invitée. Parce que je travaille notamment sur l'histoire des femmes.
Peut-être.
Voilà. Et donc, m'intéresse les relations entre le féminisme dans l'histoire et la politique dans l'histoire. Et par ailleurs, j'ai une petite expérience politique aussi, puisque j'ai été pendant 4 ans au parti de gauche, hein, où j'ai même exercé des fonctions de secrétaire départementale parisienne. Donc, j'ai une petite expérience politique. Maintenant, je dirais que je ne suis plus dans un parti politique, mais je fais de la politique. De toute façon, je crois que je ne pourrais pas faire autre chose que de la politique. Donc
Comment ça? Ton militantisme est politique? Ton activisme est politique?
De toute façon, moi, je pars du principe que tout est politique. Donc, forcément, ça n'aide pas. Hein. Donc, quoi que je fasse, c'est politique d'une certaine façon. Mais oui, c'est-à-dire que ça occupe un grand temps de ma vie. On peut très bien faire de la politique sans être dans un parti. Donc, je manifeste, j'interviens, j'essaie d'apporter des trucs au débat, je m'intéresse, je lis, j'écris, je parle, j'accepte les invitations au podcast où on parle de féminisme et politique. Voilà, c'est ma façon de faire de la politique.
Super, merci beaucoup d'être là ce soir avec nous. Claudine Cordani, deuxième invitée de cette soirée exceptionnelle, pour ce live exceptionnel, de ce Popol exceptionnel. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît, Claudine?
Alors rapidement, moi je suis une ex-journaliste qui est... Alors moi je suis un transfuge de classe, je suis fille d'ouvrier, d'un ouvrier, d'une femme de ménage. Je suis devenue journaliste et je suis pionnière en justice en France, puisque je le rappelle, je suis la première mineure en France à avoir refusé le huis clos et violeur. Et moi mon but dans... Alors moi je pensais pas faire de la politique, c'était pas du tout prévu pour moi. Enfin j'avais pas prévu ça. Et plus le temps passe, plus, en plus de l'activisme, aujourd'hui, oui, je débarque en politique. Moi, il y a des choses que je veux faire évoluer dans la loi française. Il y a plein de choses que j'espère apporter. Je travaille en tout cas là-dessus. Et voilà, que dire d'autre? Je suis autrice, je fais un peu de cinéma, je fais un peu de théâtre. J'écris des fois des chansons. L'autre fois, j'ai rappé, je vais faire un reggae bientôt. Attendez, c'est pas fini. J'expose dans 1 mois, dans 5 semaines. Je vais bosser avec une humoriste française super badass sur un spectacle. On sera sur scène. Enfin bon, voilà, je.
Tu t'occupes quoi?
Pas d'occupation. Ouais, je m'occupe tranquille. Tranquille. Puis je suis un peu activiste.
Et t'es un peu active, beaucoup même. Beaucoup. Merci Claudine. Et enfin, troisième invitée exceptionnelle de cette soirée exceptionnelle, Nadera Belletresh. Comment vas-tu?
Alors, je vais très bien. Merci Léa pour l'invitation. Je suis ravie d'être ici.
Merci à toi.
Alors moi, je m'appelle Nadera. J'ai milité sous différentes formes. J'ai été engagée dans des collectifs sur la question des quartiers populaires, le féminisme, le racisme et contre les LGBT-phobies. J'ai milité aussi dans une association sportive contre le sexisme dans le sport et pour installer la parité dans les associations, dans les conseils d'administration des associations sportives. J'ai été élue très jeune, à 12 ans. C'était le premier conseil municipal de la ville où je suis née. C'était sa création à Cachan, donc dans le 94. J'ai aussi été conseillère municipale ensuite, alors je ne sais plus, à 25-26 ans, dans la même ville où je suis née, sur une liste d'union de gauche, pas encartée, donc j'étais société civile. Et là, je suis, alors c'est un scoop, je suis candidate aux législatives Europe Écologie Les Verts sur la 15e circonscription de Paris. Merci. Merci beaucoup.
Circo vraisemblablement gagnable.
Voilà. On va tout faire pour. On va tout faire pour, mais c'est une très bonne question de ouais. voir effectivement. Je pense qu'il faudra regarder dans les investitures combien de femmes sont effectivement investies dans des circonscriptions gagnables. Mmh. Combien de femmes racisées aussi, on aura l'occasion d'en reparler. Donc, on regardera tout ça.
Ouais, on va regarder tout ça de très près. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les trois d'être là ce soir. Oui, Claudine.
Alors oui, puisqu'on parle politique, là, on entre dans le vif du sujet. Je voulais juste rappeler que moi, j'étais chez ELV, que j'ai quitté le parti il y a à peu près 3 semaines, qu'ensuite, et tout ça n'était pas prévu, hein, mais voilà, c'est le parcours que j'ai pris depuis ces derniers temps, que j'ai intégré le Parlement populaire qui m'avait contacté depuis un moment. Et voilà, je me suis lancée au Parlement populaire. Et puis, quelques jours après, eh bien, j'ai intégré les filles. Voilà, aujourd'hui, je suis LFiste.
Et ça ne plaît pas à tout le monde, de ce qu'on a compris.
Moi, ça me fait plaisir. Et puis, nous aussi,
écoute, on est ravis. Et
pour moi, ce qui est important, c'est de les faire là où je peux les faire.
Mais on a appris, et tu nous as raconté, que ça a déplu à certaines personnes qui sont venues te casser un peu les pieds.
Alors, c'est plus que casser les pieds, ils m'ont vraiment cassé les couilles, quoi. Non, mais clairement, enfin, je veux dire, voilà, on n'en a pas physiquement, mais on les a à l'intérieur, enfin, bref. Ce jour-là, un peu avant, puis alors, un peu après, j'ai subi d'énormes pressions. Dès l'instant où j'ai annoncé avoir rejoint le Parlement populaire, alors, je les ai entendus de loin, mais j'ai entendu des dents grincer. Et puis le bruit s'est rapproché. Et puis le jour de la manif, il s'est passé plein de trucs. Moi, je ne suis pas parano à la base. Mais quand il se passe une chose, deux choses, trois choses, 10 choses, et qu'à 1h du matin, vous recevez encore un appel anonyme, ça va, quoi. Donc oui, j'ai été victime de pression. Je ne vais pas vous donner des noms tout de suite, parce qu'on n'est pas, dans un tribunal. Mais je peux vous dire que beaucoup de personnes m'ont mise la pression de manière diverse, que j'ai des preuves et qu'on ne vienne pas m'emmerder avec ça.
Ok. T'as compris? Non, mais c'est important, je voulais qu'on en discute parce que déjà, c'est souvent invisibilisé, ces violences que les femmes vivent en politique. Et ça, c'est un exemple très frais, très concret.
Alors, je ne vous ai pas donné énormément de détails, mais en pleine manif, un mec, s'il n'avait pas été retenu par le service d'ordre du Parlement populaire, il était là pour venir me frapper, clairement. On l'a retenu, il était quoi, à 10 cm de moi. Il y en a eu deux comme ça. J'ai été suivie. Voilà, il s'est passé plein de choses. J'ai été insultée. Et le service d'ordre avait, comme je l'ai appris après, il avait comme consigne de me protéger. Voilà, moi, je ne savais même pas que j'étais protégée quand je suis arrivée sur le lieu de la manif dans le carré, puisque j'étais en première ligne, sur la ligne avec Jean-Luc Mélenchon et d'autres personnes, bien sûr, qui l'entourent. Voilà, donc j'ai été protégée. Et alors, ce qui est dommage, moi, je trouve, parce que, malheureusement, si j'étais la seule à qui ça arrivait, je pourrais me dire, bon, voilà, des fois, il y a des gens un peu plus rancuniers que d'autres. C'est juste leur problème. Mais je ne suis pas la seule, et j'ai eu d'autres témoignages. Donc, on ne peut pas me traiter, ça ne marchera pas. On ne peut pas dire, ouais, mais elle délire complètement, cette femme. Ben non, parce que sinon, on est nombreux à délirer. Donc, qu'on vienne nous prouver le contraire. Nous, on peut prouver les pressions qu'on a subies. Après, moi, je ne suis pas venue là pour parler de ce genre de choses, parce que pour moi ce qui m'intéresse, moi, je ne traîne pas les gens dans la boue. Par contre, je n'aime pas qu'on me roule dans la farine. Nuance. Et puis, moi, ce qui m'importe dans la politique, justement, et c'est ce pourquoi, moi, j'ai pris des décisions importantes, c'est parce que moi, je compte faire des choses, je sais comment m'y prendre, et j'ai des propositions à faire que je fais aujourd'hui au Parlement populaire. Voilà. Bah, pour ceux qui ont des regrets, moi, j'ai envie de dire tant pis, quoi. Parce que moi, ce que je vais le faire, quoi qu'il arrive. Et c'est même pas la peine de... Alors, les pressions, ça marche pas. Il y a plein de... Des gens ont essayé plein de choses. On a essayé de m'acheter. On a essayé de m'inviter en voyage. On a essayé plein de trucs. Et bah, en fait, moi, je fais ce que j'ai à faire, quoi. J'espère que tout le monde a bien compris. En fait, les gens, vous fatiguez pas, quoi. Juste...
On a compris et c'était très clair et merci d'être là ce soir. Ça donne un bon exemple de ce que c'est que quand on est une féministe et qu'on décide de s'engager en politique. Voici un résultat et c'est important que tu partages ce soir ce témoignage. Merci.
Écoféministe, moi je vais encore plus loin que le féminisme.
Écoféministe et on va en parler. Parce que ce soir, on vous rappelle le thème donc, de ce live, c'est féminisme et politique, les relations. J'ai, dans le livre que j'ai publié hier.
Bravo.
C'est vrai que c'était hier. Je me suis beaucoup intéressée à ces questions et à la veille de la présidentielle, je me disais que ça valait peut-être le coup qu'on en discute, qu'on questionne un peu ces relations. Je me suis rendu compte qu'il y avait certaines militantes féministes qui se méfiaient en fait de la politique, qui voyaient ça comme des tentatives de récupération à raison parfois, à tort parfois aussi, mais quand même plus à raison, il faut bien l'admettre, et d'autres qui assumaient totalement d'investir en fait les institutions politiques, les lieux de pouvoir, pour véritablement faire changer les choses, en considérant que finalement le militantisme, l'activisme féministe, l'engagement ne pouvait se concrétiser qu'à travers un engagement politique. Donc c'est pour ça que ça me semblait intéressant de vous avoir toutes les trois ce soir, parce que vous avez toutes déjà goûté à la politique en quelque sorte. Vous êtes toutes féministes avec des engagements en plus, et on va en discuter aussi. Et l'idée, c'était vraiment d'essayer de voir comment on fait ces allers-retours. Parce que toi, Nadera, c'est ça en fait ton histoire. T'as mis un pied dans la politique à 12 ans, ce qui est quand même assez inédit.
C'était timide, mais...
Ouais, mais bon, quand même. Et après, t'as été déçue de la politique. Tu t'es un peu mise en retrait et puis t'as décidé d'y revenir. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette relation un peu « je t'aime, moi non plus » que t'as eue avec la politique?
Bon, alors à 12 ans, j'étais ravie. Hein. Je ne me souviens pas de ce qu'on a fait. Je me souviens juste du premier jour, le conseil municipal avec le maire, le petit article dans la presse municipale.
Petite photo quand même.
Petite photo que j'ai gardée. mais c'est quand même un moment important dans la construction de ma subjectivité de citoyenne et de politique. Je ne l'ai peut-être pas mesuré sur le coup, mais en tout cas, je me suis dit, oui, ben voilà, donc en fait, on peut participer à la chose publique, on peut porter des idées, on peut porter des projets. Je ne me souviens pas qu'il y avait un impératif de parité à l'époque, et je trouve ça dommage, parce qu'aujourd'hui, dans les conseils municipaux des enfants et des jeunes, c'est une obligation, et je pense qu'il faut sensibiliser les jeunes, garçons, filles, les enfants qui ont des questionnements sur leur identité de genre très tôt à toutes les discriminations liées au genre. Ensuite, j'ai été conseillère municipale, donc sur une liste d'Union de gauche. Là, j'étais un peu déçue, clairement. En fait, je suis arrivée, évidemment, j'avais envie de militer, parce que je suis d'abord une militante des quartiers populaires.
Tu te définis d'abord comme militante avant que...
Ah oui, absolument.
Politicienne ?
Alors, j'aime pas du tout ce mot.
Ouais, c'est compliqué, hein. Comment tu te définis par ton engagement politique, comment tu...
Je suis militante et je suis prête à aller partout où il y a des leviers pour faire avancer les choses, en fait. Et après, des fois, il y a des rencontres. Il y a le Kairos, c'est l'occasion en grec, des fois, qui se présente et qu'il ne faut pas rater. Donc moi, quand j'ai eu des occasions, je l'ai fait. Donc mon expérience de conseillère municipale, moi, j'étais arrivée, j'avais un gros projet, c'était la mixité sociale. En fait, dans la ville où j'habitais, il y avait vraiment deux collèges ghettos, un ghetto de riches, un ghetto de pauvres, parce qu'on avait tous les éléments socio-économiques sur les parents. Et il y avait une ville dans le même département qui avait fait une expérience que je trouvais intéressante. C'était de fusionner les deux établissements, donc c'est-à-dire qu'on met sur un site tous les 6e et 5e de la ville, et sur le deuxième site tous les 4e et 3e, ce qui fait qu'on arrive à une sorte de mixité sociale, pas parfaite, parce qu'évidemment, il y en a qui partent et qui vont dans le privé, mais ça, de toute façon, ils le font déjà. Et cette proposition, elle avait été assez violemment rejetée. Et je me suis dit, bah mince, si sur mes sujets prioritaires d'intérêt, ça ne marche pas, moi, je ne suis pas là pour faire de la figuration. Je ne suis pas là pour être la petite arabe de quartier populaire. Et j'ai senti que je n'avais pas vraiment de prise, en tout cas à mon petit niveau de conseillère municipale. Et en plus, par ailleurs, j'étais très jeune. Et ça, c'est un peu... Voilà, en politique, moi, je pense que... Moi, j'ai eu envie à un moment aussi de me construire d'abord, professionnellement, pour justement ne pas être quelqu'un de récupérable facilement. Je n'avais pas envie de vivre de la politique. Donc, la déception couplée au fait que j'étais en pleine construction de ma vie professionnelle fait qu'effectivement, après ça, j'ai fait une pause. Mais après, j'ai continué à militer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait après ? Oui, donc je me définis comme la génération Ziad et Bouna, parce que mes premiers engagements après, ça a été... ce sont ces deux jeunes morts électrocutés fuyant un contrôle de police, et on sait que c'est pendant les contrôles de police que s'exercent le plus souvent les violences policières, donc il décède. Il y a s'ensuit une vague de révolte dans les quartiers populaires en 2005, donc de la plupart des grandes villes. Et tout de suite, donc le ministre de l'Intérieur, c'était Nicolas Sarkozy, donc il commence à dire « ouais, dans les cités, il y a des racailles, il y a des vrais jeunes ». En fait, là, c'est les racailles qui sont pas contents parce que je vais m'attaquer à l'économie souterraine. Et donc, à ce moment-là, je crée un collectif qui s'appelle Racailles de France, avec des copains, parce qu'on est des vrais jeunes étudiants, comme il dit. Et en fait, on refuse totalement cette dichotomie. En fait, on est tous des racailles, si on est des racailles, et on est tous surtout en colère. Donc, en fait, je crée ce collectif donc informel, hors parti, bien évidemment. Les actions, c'est on va coller des plaques commémoratives sur les grilles du Panthéon et puis sur les murs de certaines rédactions, avec des messages du type hommage aux grands-parents de la racaille qui ont participé aux deux grandes guerres, hommage aux grands-parents de la racaille qui ont construit la France. Et puis à la fin, leurs enfants, leurs petits-enfants méritent la patrie, la reconnaissance, le respect, etc. Je dis tout de suite, on n'a pas besoin d'avoir fait la guerre ou d'avoir construit la France pour avoir droit au respect. Mais c'était une manière aussi de répondre à ceux qui nous font toujours un procès sur la légitimité de notre présence ici. Et c'était surtout une manière... Ah oui, il y avait aussi des lectures très racistes déjà de cette révolte sociale dont on voulait nier le caractère éminemment politique. Donc il y avait notamment à l'époque Alain Finkielkraut qui disait bah, « voilà, ces gens-là, ce sont des Arabes et des Noirs qui s'identifient à l'islam et qui sont en révolte contre le monde judéo-chrétien ». Donc lecture hyper raciste, hyper essentialisante. Et puis déjà cette idée du choc de civilisation, on ne peut pas vivre ensemble, il y a une incompatibilité civilisationnelle, enfin tout ce que d'autres candidats, des candidats d'extrême droite déroulent aujourd'hui. Et donc on fait ces actions, mais surtout pour prendre la parole. Donc pour ne plus être raconté par les autres et pour analyser nous-mêmes et trouver nous-mêmes des solutions à nos problèmes. Donc je vais écrire un livre à ce moment-là qui s'appelle « Toxicité pour en finir avec les ghettos ». Je n'aime pas le titre, mais sachez que c'est les maisons d'édition qui choisissent les titres. Mais en tout cas, l'idée, c'était un peu voilà, de dénoncer la ghettoisation, la ségrégation scolaire, l'assignation à résidence. Je ne dirais pas ce qui se passe là.
Je faisais un clin d'œil à mon éditrice pour déconner.
Je me suis dit, il y a un sujet là. Ok. Voilà, après je ne veux pas tenir la parole, mais en tout cas, voilà, j'ai fait d'autres choses après, ouais. Mais je reparlerai après.
Mais en tout cas, surtout aujourd'hui, tu es candidate aux législatives. Ouais. Et ça, c'est pas rien.
Non, c'est pas
pour
rien.
Pour quelqu'un qui se disait finalement, est-ce que la politique, est-ce c'est que ça. C'est là que je vais pouvoir changer les choses, qu'est-ce qui t'a fait dire, bon, ben, j'y vais en fait.
Alors, ce qui m'a fait dire j'y vais, c'est l'expérience de la limite de mes engagements associatifs. Par exemple, après, j'ai travaillé, j'ai milité avec des copines dans une association LGBT sportive pour la parité. On a mis en place un vote pour la parité et des mecs ont voté contre. Voilà, 2022. Donc, tous ceux qui vous disent que le patriarcat, c'est que dans les quartiers populaires, non, c'est partout. Et en fait, dans cette association, il y a aussi un enjeu d'attribution des gymnases. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il y a 8 gymnases donc, attribués par la mairie. Donc, les gymnases, ce sont des biens publics qu'on paye chacune avec nos impôts. Et en gros, 7 gymnases sont pour les garçons et 1 gymnase pour les femmes. Et la limite de l'exercice, là, c'est que ils ont voté contre la parité. Donc nous, on peut rien faire. On peut pas négocier d'avoir des gymnases, etc. Donc il va falloir qu'on aille dans les mairies. C'est ce qu'on va faire. Parce que les mairies de Paris, en tout cas, ont un objectif de promouvoir le sport féminin et le sport des minorités de genre. Donc on va leur dire, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez regarder ce qui se passe ? Vous pouvez compter le nombre de femmes qu'il y a dans les gymnases que vous attribuez ? Ça serait quand même plus simple si j'étais adjointe au sport. Je regarderais moi-même ce qui se fait vraiment, à qui je file des gymnases et qu'est-ce qui est vraiment fait pour lutter contre le sexisme dans le sport. Et ce serait encore plus simple si j'étais députée et que je pouvais faire voter une loi pour que dans les conseils municipaux, on mette en place des budgets genrés. Le budget genré, c'est vraiment de se dire pour 1 euro dépensé sur un équipement public, culturel, sportif, est-ce qu'il est bien accessible à tous et à toutes. Voilà, donc la limite de cet exercice... la limite du militantisme associatif. Et puis après, bon, là, je suis candidate pour Europe Écologie Les Verts. Donc déjà, il y a une adhésion sur, évidemment, le programme. Et parce que je pense que les questions environnementales sont essentielles. Et après, il y a aussi des rencontres. Parce que j'ai aussi créé un collectif militant queer. Et dans ce cadre-là, j'ai rencontré des militantes d'Europe Écologie Les Verts féministes et aussi contre LGBT-phobie. Et on m'a proposé. Et du coup, c'est un peu de la cooptation entre femmes féministes. Et ça, c'est important de le faire parce qu'on sait que les hommes le font très bien. Et c'est aussi une manière de joindre, de faire la jonction entre un collectif militant et une organisation politique qui peut vous accompagner pour essayer de gagner une législative. Parce que sans, je peux vous dire, le coût d'une campagne, c'est un peu compliqué, quoi.
Merci beaucoup. Mathilde, on entendait le témoignage d'Anadera qui nous laisse entendre très clairement qu'il y a eu un moment donné, elle a compris qu'il y avait des limites à son engagement militant et qu'il fallait investir le champ politique, le champ législatif même, pour faire changer les choses, faire bouger les choses. Toi qui as une perspective historienne du militantisme féministe et des relations entre pouvoir et féminisme, est-ce que c'est quelque chose que les féministes à travers l'histoire ont intégré dans leur combat au quotidien? Parce que moi, j'ai eu le sentiment qu'il y avait eu aussi, et c'est encore le vrai aujourd'hui, une posture anti-institutionnelle de beaucoup de militantes, quand d'autres décident finalement d'investir aussi le pouvoir. Toi, tu analyses ça comment au cours de l'histoire? Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a des choses qui changent aujourd'hui? Ou est-ce que finalement, il y a toujours cette dichotomie entre les militantes qui restent militantes et qui se méfient du pouvoir politique, enfin de la politique, et celles qui décident d'investir le pouvoir politique?
Alors déjà, la difficulté, c'est que pendant très longtemps, de toute façon, les femmes, elles étaient exclues du politique. Donc l'essentiel de leur combat, c'était d'y rentrer. Alors elles pouvaient ne pas être d'accord pour savoir si c'était la première chose à gagner par rapport à tout ce qu'il y avait, tout ce qu'il y avait à emporter. Parce qu'en fait, c'est surtout au XIXe siècle que les questions se posent. Et il faut savoir qu'au XIXe siècle, une femme, elle est mariée, elle est soumise à son mari, elle lui doit obéissance, elle a le droit de rien faire sans l'autorisation de son mari, elle a le droit de se syndiquer sans l'autorisation de son mari. D'ailleurs, si jamais elle avait eu envie d'adhérer à un parti, enfin, il n'y a pas de parti au XIXe siècle, donc c'est réglé, mais si elle veut ester en justice, si elle veut passer un permis, si elle veut se faire opérer même, il lui faut l'autorisation de son mari. Donc tout le débat au XIXe siècle entre les féministes, c'est le débat entre Maria de Rerme et Hubertine Auclair, c'est de savoir si le plus important, c'est d'abord de faire tomber le code civil et donc de redonner la capacité civile aux femmes, ou si le combat doit porter sur le droit de vote. Et d'une certaine façon, c'est un peu ce que tu dis, c'est-à-dire que l'argument de De Rem ou avant elle de George Sand, enfin de celles qui sont pour se battre d'abord pour le code civil, c'est ça qui est important, il faut le faire, etc. Et au clair, ce qu'elle leur répond, c'est mais tant qu'on n'aura pas le droit de vote, on ne pourra pas le faire. Et en fait, c'est un instrument, c'est une nécessité. Parce que toi, au bout du compte, c'est la même chose que tu veux à la fin, simplement tu te rends compte que le levier, au bout du compte, c'est le politique. Et c'est ce que défend Hubertine Auclair autour de 1876-1879, excusez-moi, je pense toujours au 19e, moi j'ai un peu un problème. Et donc elle arrive à emporter dans les différents groupes féministes en disant il faut absolument qu'on ait ce levier, parce que si on ne l'a pas, de toute façon, on n'obtiendra rien, et tant qu'on ne sera pas électrice, les hommes politiques, parce qu'elles n'envisagent pas vraiment encore qu'elles soient très nombreuses au pouvoir. Elles ont quand même bien conscience, si elles devenaient électrices, des limites qui se poseraient. Mais au moins, ils seront obligés de faire un tout petit peu en fonction de ce qu'on demande. Donc la question se pose là. Donc elles finissent par obtenir le droit de vote. Yes. Bon, 1944, elles sont aussi éligibles. Mais soyons clairs, la première assemblée, c'est pas mal. La première assemblée, c'est 5% de femmes. Mais parce que c'est exceptionnel. Juste l'assemblée qui suit, ça retombe à 3% et ça va être à 3% jusque dans les années 1990. Et en fait, pendant toute cette période, il n'y a pas énormément de tentatives de prendre cette voie-là. C'est-à-dire que c'est plutôt par d'autres voies qu'elles essaient d'agir. Et en fait, ce qui va changer, c'est avec le mouvement pour la parité, où à nouveau, il y a ce discours, le levier, cette fois, c'est d'être dedans. Tant qu'on ne sera pas élu, on ne pourra pas suffisamment changer les choses. Donc, il faut absolument mettre le pied dans la porte et emporter la parité. Sauf qu'à nouveau, la question continue à se poser. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les leviers se révèlent insuffisants et qu'on essaie de rentrer un peu plus pour les actionner. Parce qu'après, il y a aussi les questions, voilà, une fois que la parité, elle est là, quantitative, après, il y a la parité qualitative. Donc super, les femmes, 50% sont conseillères municipales, mais 86% sont adjointes à la petite enfance et à la santé, alors que 80% des postes d'adjoints aux fonctions dites régaliennes, c'est-à-dire ce qui va des finances aux travaux publics, c'est les hommes. Donc, il y a l'idée qu'il faut que les femmes rentrent dans... Bon. Donc, il y a toujours des nouvelles portes à franchir. Et évidemment, ça range hein, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est franchi. Mais donc, oui, il y a toujours cette question-là qui se pose, qui se repose. Mais pour te répondre, voilà, elles ont d'abord de toute façon tellement bataillé pour juste avoir le droit de voter.
Et donc, si je comprends bien ton discours, on peut presque en conclure que finalement, les militantes féministes aujourd'hui n'investissent pas la sphère publique et la sphère politique parce qu'elles n'y trouveraient pas leur place.
Non, parce qu'il y en a qui l'investissent.
C'est pour donc, ça, ouais.
Non, il y en a. C'est juste qu'en... Non, c'est pour dire que de toute façon, il y a toujours une place. À chaque fois qu'on arrive à investir une place, on a l'impression que les hommes dominants, c'est-à-dire quand même essentiellement par ailleurs riches et blancs, se reconstituent une nouvelle citadelle et qu'il faut à nouveau aller l'attaquer et que si on arrive à rentrer dedans et à l'investir, une autre sera construite. Enfin... Il y a peut-être un moment, il n'y aura plus de citadelles qui resteront, mais pour l'instant, c'est à chaque fois ça qui se passe, quoi. C'est-à-dire d'abord les urnes, ensuite les lieux de pouvoir, ensuite les fonctions régaliennes. Voilà, il y a en permanence construction de citadelles dans laquelle les femmes sont exclues. Elles ne sont pas les seules à être exclues, hein, parce que, comme tu le dis très bien, il y a évidemment tous les racisés, et puis les classes populaires qui sont... Les plus exclus de tout actuellement à l'Assemblée nationale, c'est les classes populaires.
Ouais. Mais du coup, c'est presque, il y a un effet... en fait, lorsqu'une féministe décide d'investir le champ politique, c'est un double combat qu'elle doit mener. C'est-à-dire un combat pour se faire une place et le combat qu'elle mène de base, en fait, qu'elle porte avec elle au sein de l'institution pour le porter haut et fort. Toi, Claudine, est-ce que tu as, à travers ton engagement politique, eu le sentiment que c'était possible, en fait, d'être une femme féministe et d'envisager d'avoir une fonction politique ?
Alors, je réponds oui, parce qu'en fait, c'est à nous de décider ce qu'on a envie de faire ou pas, à la base. Personne n'a décidé pour nous. Personne n'a à dire, non, les femmes, ne venez pas en politique, vous n'avez rien à y faire. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, je veux dire, moi, je suis pour l'égalité, enfin, féministe, alors je suis écoféministe. Mais féministe, à la base, c'est les femmes et les hommes ont les mêmes droits. Donc, si les hommes font de la politique, ben nous, on peut faire de la politique. Moi, je pars d'un postulat très simple. Et en fait, je n'ai jamais décidé de faire de la politique, sauf de la façon dont moi, je vivais, je me comportais dans la vie au quotidien. Et je n'avais pas prévu, mais oui, s'il faut que j'entre en politique pour aboutir à faire ce que moi j'ai envie de faire, bah oui, je vais en politique. Bah oui, moi ça me pose aucun problème. C'est juste moi qui dois décider est-ce que je le fais ou pas. Je n'ai de compte à rendre à personne en fait. Je me l'autorise parce que j'ai le droit de me l'autoriser. En tant que femme libre, bah j'ai le droit.
Ah, mais j'ai eu le sentiment aussi à travers un certain nombre d'interviews que j'ai pu mener ou aussi des échanges que j'ai pu avoir avec des femmes et des féministes qui se sont engagées en politique, notamment Sandrine Rousseau, mais je pense aussi à Alice Coffin, qui avait presque une responsabilité, un sentiment de responsabilité de se dire ok, si là on n'y va pas, personne ne va y aller et rien ne va changer. Est-ce que vous avez ce sentiment ? Est-ce que toi, Claudine, tu l'as ?
Mais bien sûr, on a clairement des choses à faire. Et toutes les personnes, que ce soit des femmes ou des hommes, toutes les personnes qui pensent avoir des idées. Alors bien sûr, après, il faut réfléchir à ce qu'on fait, comment on le fait, parce qu'il ne s'agit pas de dire j'ai une idée. Il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte. Moi, concernant la justice, j'ai pris en compte tout un tas de paramètres et je vais faire une proposition très forte. Je ne peux pas en parler davantage parce que je laisse le scoop à la LFI, le parti... que je représente aujourd'hui, mais je peux vous dire que ça va faire boum.
Mathilde, tu voulais réagir ?
Enfin, je pense que surtout, il faut s'organiser, en fait. L'essentiel, c'est l'organisation, le rassemblement. C'est-à-dire qu'individuellement, on peut des choses, évidemment, mais l'essentiel est la construction, en fait, de mouvements féministes, ce qui va d'ailleurs entraîner des divisions, parce qu'on n'est pas toutes d'accord. Hein. Il y a des féminismes, il n'y en a pas qu'un, mais c'est par la structuration, c'est par l'organisation, avec la difficulté que les cadres classiques d'intervention dans le politique ne sont pas exactement les cadres dans lesquels on peut s'organiser en tant que femme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de syndicat des femmes, ça n'existe pas, il n'y a pas de parti des femmes. Ça n'aurait d'ailleurs pas grand sens d'une certaine façon, puisque les coupures politiques, il peut y avoir des féminismes de droite, oui.
Mais c'est une vraie question. Hein,
non, mais ouais. Si, d'une certaine façon. Enfin, en tout cas, oui, parce que.
Tu définirais comment ?
Si, c'est-à-dire que des nanas qui à droite, tout en étant en accord, enfin. En ayant des idées de droite, n'en sont pas moins pour la défense de l'égalité femmes-hommes.
Ouais, genre une femme qui défend l'égalité professionnelle, des choses comme ça, mais qui à côté de ça est pour la réémigration, par exemple.
Moi je peux pas, j'ai du mal, hein, mais
moi ça va pas non plus.
Mais en même temps, la meuf, elle va pouvoir. Enfin, ce qui était intéressant quand j'ai fait le bouquin où j'ai interrogé des femmes et d'autres exclus.
Ouais, on peut rappeler le titre, s'il te plaît.
Les intrus en politique. Et donc y a des nanas de droite qui se considèrent comme féministes, la moindre des choses, et d'entendre la façon dont les gens.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On se définisse, hein, par ailleurs, c'est quelque chose qui est entendable et que par ailleurs, ces nanas en question vont subir à l'intérieur de leur parti des stigmatisations et des discriminations parce qu'elles sont considérées comme féministes.
Bah, on le voit presque, même sans se dire féministe, Valérie Pécresse, c'est un peu ce qu'elle est en train de vivre, hein, somme toute. Elle vit des attaques au sein de son parti du fait que ce soit une femme, ça, on peut le dire.
Mais alors, se faire attaquer parce qu'on est une femme et se faire attaquer parce qu'on est une féministe n'est pas la même chose. Quand on se fait attaquer quand on est féministe, alors,
c'est peut-être pas le bon exemple, mais Nelly Garnier qui s'affirme féministe,
oui, voilà,
chez LR.
Après, elle est compliquée, là. Pécresse, elle est intéressante à étudier, hein, parce qu'un coup, dans l'émission, elle prend une position que l'on va qualifier de féminisme face à Bourdin en lui expliquant qu'elle a du mal à parler parce qu'il est accusé de violence sexuelle. Donc là, elle coche le truc. Hein, elle a pris le bingo, elle fait la case. Et à côté de ça, elle va te sortir que heureusement qu'il y a une femme pour faire le ménage. Ou devant les chasseurs, vous comprenez, j'ai un organe tellement faible qu'il faut que je sois sous.
Tu penses pas que c'était de l'ironie, ça ?
Non, je pense pas.
Ah bon ?
Non, je pense pas que c'est. En fait, on a envie que ce soit ironique.
Par contre,
je trouve très intéressant de se poser la question, mais ça, c'est pas exactement la question que tu soulèves, mais la voix des femmes en politique est un vrai sujet.
Tu en parles
en fait.
Beaucoup, toi, d'ailleurs.
On peut digresser, je t'en prie.
Je trouve ça intéressant d'en parler.
Parce que de fait, la politique, comme elle s'est construite depuis un siècle et demi, voire deux siècles uniquement avec des hommes, tout l'éthos, toute la façon de se comporter en politique a été construit sur le mec. Et donc, que ce soit la façon de s'habiller, la façon de se mouvoir, la façon de parler, la façon de faire un meeting et la voix, elle correspond à une représentation, enfin un modèle masculin. Donc les nanas, quand elles arrivent avec des voix qui, de fait, sont parfois plus aiguës, pas forcément plus, hein, moi j'ai une voix plus grave que pas mal d'hommes, mais dans l'imaginaire général, et on va dire de façon générale, on va dire que les nanas ont des voix plus aiguës, et aussi parce qu'on leur a appris à parler plus aiguës, hein, y a aussi des trucs à faire dès la... On digresse. Mais bref, qui plus est, les micros sont dans les hémicycles, etc., réglés sur les voix des hommes.
Ouais.
Ce qui fait que les nanas, très vite, elles montent dans les aigus. Et que par ailleurs, tu montes d'autant plus dans les aigus que tu cries. Or, quand tu cries et que tu montes dans les aigus, là, vous avez le truc hystérique, 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 hystérique pour une nana immédiatement. Et donc, c'est évident qu'en ce moment, Pécresse, elle a peur de ça. Donc, elle est là à parler très doucement, parce que plus on parle doucement, plus on peut parler, enfin, lentement, plus on peut parler grave. On sent qu'elle a un problème avec sa voix, elle est inquiète de sa voix. Mais par exemple, Cécile Duflot, elle a fait des cours hein, pour faire baisser, parce qu'elle avait une voix trop aiguë, elle a fait beaucoup de cours pour que sa voix soit plus grave. Il y en a pas mal d'autres hein, qui sont obligés de faire des cours juste pour adopter, pour apprendre en fait à avoir une respiration plus basse et avoir une voix plus grave. Donc la voix est un... Ça paraît rien, mais ça paraît rien parce que... Alors pour la grande majorité des mecs, cela dit, des mecs en politique qui ont une voix aiguë, parce que c'est une norme masculine et virile, et qui, on le sait très bien, toutes ces normes masculines et viriles font aussi du mal à toute une partie des hommes. C'est bien absolument, pour ça qu'ils ont tout ouais. intérêt à tout dégenrer comme nous. Quoi.
Ouais, c'est clair.
Alors, on est complètement parti du truc, je me souviens
on
plus.
On est complètement parti du ouais. truc, mais du coup, je compte sur Nadera pour nous ramener dans le droit chemin.
Je me rappelle de la question, non mais je m'en souviens.
Ah, parfait. Je te vois avec tes notes. Hein.
Pas le dire, ça se voit pas. L'émergence de figures féministes en politique, pour moi, c'est vraiment fondamental sur la question des rôles modèles. De dire aux petites, à toutes les féministes en puissance que c'est possible. Moi, clairement, Europe Écologie Les Verts, évidemment, il y a une adhésion sur toutes les questions environnementales, je l'ai déjà dit, mais l'émergence de figures féministes fortes. D'un féminisme sans concession ambitieux, ça m'a aussi motivée à les rejoindre. Sur le féminisme, est-ce qu'on peut soutenir toutes les femmes qui se disent féministes ? Moi, je ne peux pas soutenir des... Voilà. Aujourd'hui, le niveau de l'extrême droite a atteint le niveau le plus élevé pendant la Ve République. Il y a une prime à ce que j'appelle le fémonationalisme, c'est-à-dire... Utiliser nos luttes, nos combats, utiliser la question des droits des femmes pour stigmatiser des minorités. Bon, en général, ce sont les musulmans, les quartiers populaires, les migrants, etc. Et aujourd'hui, la plupart du temps, quand on parle des femmes, quand on parle de patriarcat, c'est pour dire, c'est pour parler du voile et c'est pour dénoncer le patriarcat qu'il y a dans la communauté musulmane. Le patriarcat, on sait qu'il est partout. Il est dans tous les milieux socioculturels. Moi, je suis une transclasse. Hein. J'étais dans les associations LGBT, dans les quartiers populaires, dans des milieux très bourgeois. Je peux vous dire qu'on doit se battre partout. Et donc, évidemment que Pécresse, elle fait aussi dans le fémonationalisme quand elle propose des mesures qui ne concernent qu'une catégorie de personnes. Quand on interdit que le voile, au lieu d'interdire tous les signes religieux obligatoires, forcés par les parents, etc., c'est une mesure de discrimination et de stigmatisation. Donc, je défends un féminisme pro-choix, c'est-à-dire la liberté inconditionnelle, non négociable pour chaque femme à disposer de son corps. Et je défends un féminisme résolument antiraciste.
Ouais, merci beaucoup. Et... C'est important de replacer les choses dans leur contexte, effectivement. Mathilde, tu voulais réagir ?
Ouais, ce qui est compliqué, je fous un peu le bordel, hein, mais évidemment, je suis d'accord avec toi complètement sur le truc, je fous le bordel sur un autre truc. Quand on est féministe, a priori, donc, on défend l'émancipation des femmes. Or, l'émancipation est ce qu'on va appeler l'agency ou la gentilité des femmes. Eh bien, il se trouve que, de facto, elles ne passent pas forcément par la gauche et par l'antiracisme, etc. Je ne sais pas si vous avez vu la série qui s'appelle Miss America ou Missis, avec Kate Blanchett. Ça vous dit... ça correspond à une réalité. Hein. C'est une nana dans les années 60-70 qui va se retrouver, d'ailleurs pour partie manipulée par les hommes politiques de droite, à la tête d'un mouvement contre l'IRA. L'IRA était un amendement qui devait garantir l'égalité homme-femme aux États-Unis. Et très habilement, hein, les conservateurs américains se sont servis de cette meuf pour porter un mouvement contre l'égalité homme-femme, parce que c'était beaucoup plus efficace quand c'était une nana. Et donc cette nana qui s'appelle Shafley, elle-même dit qu'elle a du mal à le prononcer, alors moi je te raconte pas, se retrouve à organiser des meetings, à faire des trucs. Et donc on voit cette meuf hein, qui est vraiment la desperate housewife de base au début. Elle repasse les chemises de son... Enfin vraiment, mais c'est la femme américaine, d'ailleurs française à la même époque, parfaite. Et puis qui se retrouve à organiser des équipes de femmes, à faire des trucs. Et on voit très bien dans le film en quoi c'est un processus d'émancipation. Et d'ailleurs, celles qui sont avec elle finissent par se séparer de leur mari. Enfin... C'est ça qui est hyper compliqué. C'est que c'est un vrai... Il y a des processus d'émancipation par la droite. Bon, je remonte à la Révolution française. L'un des espaces où il y a eu de l'émancipation pendant la Révolution française... Il y a évidemment du côté de la Révolution, les Montagnardes, Pauline Léon, les citoyennes, ok. Mais je peux te dire que les femmes nobles qui se sont retrouvées d'ailleurs seules parce que leur mari avait émigré pour se tirer à l'étranger en disant « Chère Bobonne, vous allez vous occuper du château pendant mon absence » et qu'elles se sont retrouvées toutes seules à la tête des terres et qu'elles ont dû régler tous les problèmes économiques, tout ça, plus mener une politique de contre-révolution, écrire dans des journaux, c'est un processus d'émancipation, mais c'est un processus d'émancipation des femmes par la contre-révolution. Donc c'est compliqué. Et actuellement, alors au RN, c'est pas tout à fait Zemmour. Les femmes avec Zemmour, la laisse tomber, c'est du grand n'importe quoi. Mais dans les groupes autoritaires, les groupes identitaires, il y a des nanas. Alors elles sont inacceptable sur toutes les idées. Enfin, tu as tout à fait raison, hein, c'est du fémonationalisme, enfin, c'est l'instrumentalisation du féminisme au service de l'islamophobie. Il n'empêche que ces meufs, hein, quand tu les suis, elles sont aussi dans des processus d'émancipation. Et c'est très compliqué. Oui. Et on doit faire avec ça. Et en fait, il faut qu'on le comprenne parce qu'on arrivera à combattre leur instrumentalisation du féminisme qu'en prenant en considération le fait qu'elles ne sont pas des potiches, en fait. Comme dans Mrs. America, elle n'est pas une potiche. Et c'est ça qui est compliqué.
Bien sûr.
Donc c'était juste pour compliquer le truc, évidemment, non, pas pour dire
fait,
que...
Mais d'ailleurs, Marion Maréchal est l'exemple parfait. Quand elle joue la femme émancipée, qui a divorcé, qui a ceci, qui a cela. Voilà, c'est une femme libérée, mais qui finalement propose... Non, mais dans ce qu'elle essaie de laisser transparaître et dans son mode de vie, son personal branding est vraiment ça, c'est basé là-dessus. Et ce qu'elle propose finalement, c'est vraiment que de répéter les codes du patriarcat. Et donc, c'est vraiment... Enfin, tu bernes tout le monde avec ça. Et, bref, c'est vrai que c'est un vrai sujet, hein, les questions, les femmes d'extrême droite.
C'est compliqué. Il y a un bouquin qui vient de sortir là-dessus.
Oui, tout à fait.
Qui est super intéressant et qui justement montre bien...
Est-ce que tu te souviens du nom de l'autrice? J'aimerais bien... Quelqu'un sait? Camille, tu sais, toi? Oui. Exactement. Magali, comment? De la Souda. Magali De la Souda, on citera son ouvrage.
C'est super malin ce qu'elle explique.
Ouais, ça c'est vrai que ça me semble très intéressant. Claudine?
Oui, je voulais en venir. Tu parlais de Marine Le Pen qui a divorcé en même temps, 2022. C'est pas un scoop de divorcer. Enfin, je veux dire, ça veut pas dire que t'es moderne, quoi. Enfin, tu vois, si avec ça...
Mais attends, moi, pour un tas de meufs de droite,
non, mais
c'est
si
super
que
moderne
ça, moi, je connaîtrais plein de meufs super modernes et féministes. C'est pas parce que t'as divorcé que ça va le faire, quoi.
Non, ça c'est
pas.
Sûr. Oui,
non,
c'est
mais elle
sûr.
Joue, elle se construit. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y avait un tel gender gap dans le vote RN, enfin FN puis RN, qu'ils ont été obligés de rajouter des différents éléments du bingo pour choper. D'ailleurs, ça marche, hein, maintenant, il n'y a plus de gender gap. Le gender gap, c'est la différence de vote entre les femmes et les hommes pour des candidats.
Les femmes ont davantage voté, ouais, d'ailleurs, au second tour et au premier tour pour Marine Le Pen en 2017.
Ouais. Ça a été travaillé, je veux dire, il y a de la com.
Elle continue
derrière.
D'ailleurs, hein, là, pardon, pendant le dernier congrès du parti, lorsqu'ils ont dû, investir les appareils politiques. Il y a eu une volonté vraiment très affirmée et affichée de la part de Marine Le Pen d'investir 40% de femmes, alors qu'elle n'était que 28% à se présenter. Mais bon, c'est de la poudre aux yeux.
Bien sûr, c'est de la poudre aux yeux.
Ouais. Alors, on s'est peut-être un peu éloigné.
On s'est grave éloigné.
Mais c'est pas grave, la discussion est intéressante. Mais je voulais quand même en revenir sur ces questions de féminisme et de politique. Et surtout, en ce moment, par rapport à la campagne présidentielle. Enfin, bon, je vais faire ma fanzouze, clairement. Mais moi, la seule que je voyais pouvoir vraiment porter ce combat féministe, au niveau, en tout cas, de l'élection présidentielle pour cette année, c'était Sandrine Rousseau, naturellement. Et vous avez le droit de crier dans la salle « Youpi, on adore Sandrine !» Parce qu'on adore Sandrine ici, hein, on lui dit. On l'embrasse d'ailleurs, on pense à elle beaucoup, tous les jours. Mais là, bon, c'est cuit, quoi. Enfin, clairement, cet élan du féminisme qui vraiment portait, était enfin porté et incarné par quelqu'un qui a un combat sincère, est un peu, bon, enfin, exclue, pas exclue, mais a déserté en tout cas le paysage politique, même si elle est encore présente et qu'on l'entend encore beaucoup. C'est encore pire depuis que Yannick Jadot a décidé de la virer de son conseil politique. C'est un peu désespérant, non, pour cette présidentielle ?
Alors, Sandrine Rousseau a apporté énormément de choses à la politique. C'est quand même une femme qui a remis au goût du jour et qui a imposé en politique le féminisme, clairement, et qui a fait émerger le mot écoféminisme de cette campagne. Donc ça, il faut reconnaître le travail qu'elle a fait, qu'elle n'arrêtera pas de faire, je pense, parce qu'elle a des aspirations politiques, elle va continuer à porter ce qu'elle peut. Moi, ce que je regrette énormément dans cette politique, c'est aussi une des raisons, mais pas la seule, pour laquelle j'ai souhaité quitter le parti, c'est que quand elle a... Pour moi, elle a quasiment remporté à égalité la primaire interne ELV. C'est-à-dire, sans dire de bêtises, je crois qu'elle était à 48,93 ou 97%. Pour moi, c'est du quasi 50-50 à 2000 voix près. 2000 voix, c'est rien. J'ai été très déçue que Jadot ne se comporte pas en féministe. Parce que quand on est vraiment féministe, on partage le pouvoir. Moi, ça m'a posé un vrai problème en tant que féministe. Vous pouvez applaudir, vous ne retenez pas. Hein.
Voilà. On ne vous balancera pas.
Alors, ça a été, on va dire, la goutte d'eau qui a fait déborder le canal. Mais juste avant, moi, j'avais... Juste avant, il y avait quand même un papier de Mediapart qui disait qu'il avait essayé d'acheter la primaire à coût de 150 000 euros. Alors moi, j'ai fait une chanson qui parle d'éthique en politique avec la chanteuse Mathilde, qui elle est fils. Du coup, on a aussi ce point en commun. Fouteuse de merde, elle est fils. Non, fouteuse de merde, néna. Il faut de l'éthique en politique. Voilà. Donc, c'est pour en revenir à Sandrine Rousseau, j'ai trouvé très injuste qu'elle n'ait pas la place qu'elle méritait au sein du parti. Et pour plein de raisons, j'ai réalisé, moi, qu'au sein du parti, je n'arriverais pas à faire ce pour quoi j'étais venue. Dans ce cas-là, quand je n'arrive pas à faire quelque chose quelque part... alors je me lève, je me casse, je vais ailleurs.
Parce que toi, si je me souviens bien, on avait déjà échangé là-dessus, tu avais décidé de rejoindre ELV de par ton engagement écoféministe.
Alors exactement. Moi, je n'ai pas réalisé, j'ai réalisé ces dernières années que j'étais écoféministe.
Comme ça, un bon matin. Hein? Comment?
C'est intervenu juste après avoir écrit mon livre. C'est-à-dire que j'ai réalisé tout un tas de choses, j'ai écrit tout un tas de choses. Et puis, je me souviens que c'est suite à un rassemblement de nous toutes. Où est-ce que ça se passait ? C'était pas un rassemblement, c'était un week-end militant. Il y avait tout un tas de conférences. Et puis, il y avait tout un tas de groupes de travail, notamment sur l'écoféminisme. Et là, je me suis dit, mais en fait, moi, je suis écoféministe. C'est-à-dire vraiment.
C'est là que tu as compris, en fait, que tu as mis le doigt sur ton engagement, sur ce que tu ressentais.
Et puis voilà, moi, ça faisait un moment que j'avais décroché de la politique politicienne, on va dire. Et je me suis renseignée. Pour moi, ce qui correspondait le plus à ce moment-là, c'était le parti ELV. Mmh. Parce que moi, je retrouvais toutes les valeurs que moi, je prône, dont j'ai besoin, que je pratique au quotidien. Et donc, je suis allée vers eux. Voilà, logique, quoi. Et puis, là, j'ai fait un autre chemin. Et puis, mais de toute façon, la politique, c'est un peu comme la vie. Hein. Loin des yeux, loin du cœur. Des fois, on prend deux chemins différents. C'est un peu comme un couple. Après, des fois, il faut savoir se dire au revoir tranquille. Et le plus important, c'est de continuer son bout de chemin. En fait, c'est comme un être humain. On continue. Le plus important, c'est que toutes les personnes qui veulent œuvrer pour une société plus juste le fasse. Le plus important, c'est que chaque personne le fasse dans son coin, ensemble, peu importe, mais que ça se fasse.
Merci beaucoup, Claudine. Moi, j'avais une question à vous poser à toutes les trois. On se rend compte quand même depuis notamment l'émergence du mouvement MeToo, et merci à ce mouvement, la société française, peut-être dans son ensemble, devient de plus en plus féministe, ou en tout cas les questions d'égalité entre les femmes et les hommes devient quelque chose d'assez évident. 79% des Françaises et des Français, je crois, considèrent que c'est un des éléments principaux sur lesquels ils souhaitent et elles souhaitent se prononcer le jour du vote pour la présidentielle. Malheureusement, ces questions ont du mal à émerger sur le devant de la scène et pendant le débat, enfin pour le débat politique. Et moi, ça me pose cette question, ça me fait réfléchir. Je me demande si finalement la société française n'est pas plus féministe que le monde politique. Nadéra, t'en penses quoi? Ah là, c'est une colle. Là.
Est-ce que la société française...
Ouais, la société française. Est-ce que les gens qui votent, les électrices et les électeurs, sont finalement pas plus féministes que la classe politique aujourd'hui?
La classe politique étant très masculine, très majoritairement blanche, bourgeoise, hétérosexuelle, etc. Oui, il est tout à fait possible que dans la société, ces questions aient progressé bien plus vite.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, évidemment, parce que tant qu'en fait... Tant
oui, c'était une question évidente. Hein, j'ai fait, ouais, exactement. Bah ouais, je voulais pas me fouler, mais je savais où je voulais vous emmener. Ouais.
Et c'est pour ça où en fait, on ne sera jamais assez de féministes activistes pour faire bouger des choses et mettre un coup de pied dans la fourmilière. Parce qu'en fait, non, c'est très exactement où ça bloque et pour quelle raison. Vas-y.
Je voulais ajouter qu'il y a pour moi aussi une grande responsabilité de certains médias dans la difficulté à faire émerger les questions féministes. Aujourd'hui, vraiment, quand je vois des journalistes qui ne ratent pas une occasion de poser une question pour savoir si les femmes qui portent le voile peuvent aller jouer au foot, aller à la piscine, qui ne posent pas de questions sur les féminicides, les violences sexistes, les violences sexuelles, qui interrogent Éric Zemmour en lui demandant ce qu'il pense du voile. Donc c'est la passion hein, de parler des corps des femmes arabes en France, on l'a bien compris, sans évoquer les agressions sexuelles, enfin, en tout cas les femmes qui portent plainte pour agression sexuelle. Je pense qu'il faut des femmes en politique, féministes, mais il faut aussi beaucoup de féministes dans les médias. Il faut absolument qu'on soit partout.
Tout à fait.
Après, il faut voir aussi ce que les gens entendent par féministe. Hein, parce que s'ils pensent que féministe, c'est que tu repasses tes chemises, c'est un peu limité comme définition de féministe.
Je t'ai vu réagir lorsque Nadéra parlait des médias. Mathilde.
Ah bah oui, non mais ça effectivement, de toute façon il y a une responsabilité très importante. Alors des médias, pareil, hein, qu'est-ce qu'on entend par médias? On va dire les médias dominants, là il y a une responsabilité qui est pointée régulièrement, mais en même temps qui... Où les nanas servent de potiche là, c'est clairement quoi, mais... Et il faut changer ça. C'est vrai aussi pour l'antiracisme. C'est vrai pour.
Il n'y a aucune question sur l'antiracisme. Aucune.
Ils sont capables de traiter le féminisme avec que des mecs, l'antiracisme avec que des blancs. Enfin, ça leur pose pas de problème.
Ce que je veux dire, c'est qu'avec le niveau d'extrême droite aujourd'hui, que ce soit une priorité d'aucun candidat, d'aucune candidate, c'est quand même très questionnant, quoi.
Tu m'étonnes.
On l'a vu d'ailleurs avec l'assassinat du rugbyman le week-end dernier. Je veux dire, enfin, est-ce que on a vu Gérald Darmanin faire tous les plateaux de télé pendant une semaine?
C'est qui Gérald Darmanin?
Ton meilleur pote.
Cela dit, moi, là où je serais moins positif que toi, ok, ouais, la société est féministe. À nouveau, je voudrais bien savoir ce qu'ils disent par féministe, hein, parce que. Voilà. J'aide ma femme. Ah, merci, c'est sympa, tiens. Mais au-delà de ça, moi, je trouve qu'il y a en ce moment, et je pense que Claudine, vous direz pareil, il y a une charge contre les féministes. Mais putain, le niveau de violence sur les réseaux sociaux, en tout cas, j'ai jamais pris... Enfin, ça, en gros, c'est depuis que Zemmour est candidat, moi j'ai vu la différence, mais je me prends de ces trucs, comme jamais avant. Avant, je trouvais ça d'être tranquille. En fait, antiraciste sur Twitter, c'est galère, parce que là, ça fait longtemps qu'ils attaquent. Mais moi, j'étais féministe, antiraciste, ils m'avaient pas trop identifié, donc j'étais assez tranquille, on va dire. Hein. Bon, ok, j'étais de gauche, c'est pas super, ils adorent pas, mais enfin bon, ça passait, quoi. Mais maintenant, féministe, ça passe pas. Ouais, et le moment où j'ai vu basculer, c'est un moment où Zemmour avait remis... avait essayé de justifier, de dire qu'il y avait de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes et que s'il y avait une égalité salariale, c'est parce que les nanas choisissaient, disait-il, des métiers qui étaient moins payés. Et moi, j'avais fait un travail de débunkage en expliquant, un, qu'il n'y a pas de choix, que deux, s'ils ne sont pas payés, c'est parce qu'on confond qualification et qualité. Enfin bon, j'avais expliqué tout ça. Et là, mais je ne l'avais pas vu venir, mais la charge, mais d'une violence. Je me suis dit, il y a un truc qui se passe. Vraiment, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et là, il y a quelques jours, dans un tweet, j'ai mis le mot « domination de genre ». Je ne sais pas, je n'avais pas l'impression de mettre un truc très grave, hein, « domination de genre ». Ça va, vous n'êtes pas en train de choper des boutons, là, vous allez bien, bon. Mais là, c'est fou. Et alors, c'est le truc nouveau, ça m'a fait marrer. Alors, ils veulent me brûler, maintenant. C'est sorcière. Enfin, c'est normal, j'ai attaqué le Puy du Fou, donc je dois avoir des tarés.
Et donc,
ils ont une nostalgie de la seule sorcière. Mais c'est, en fait, tu veux, au 15e qui est prêt à acheter la boîte d'allumettes, si tu veux, tu te dis, bon, ça serait bien qu'il se calme un peu de 2 minutes, quoi.
Tu observes un changement par rapport aux questions féministes. Est-ce que tu crois que c'est ce qu'on appelle le backlash, c'est-à-dire un retour de bâton? Est-ce que c'est aussi le signe que finalement les questions féministes avancent et donc en réaction, il y a une résistance? Parce que clairement, sur l'antiracisme, moi, je vois bien que depuis qu'on a réussi à faire progresser la visibilité de concepts comme l'intersectionnalité, etc., il y a une résistance très forte. Mais moi, je le prends aussi comme, voilà, on est en train d'avancer. Ouais. Des
pions, un signal positif.
Et quelque part, ça veut dire que ça bouge.
Oui, il y a du backlash qui est d'ailleurs qui est un peu décalé parce que c'était plus calme avant. Cela dit, moi, je me souviens quand on était à la manif, je ne sais pas si vous y étiez, la dernière manif avant le confinement, donc le 7 mars, la celle de nuit, hein, la radicale, pas la très importante, mais un peu gentille, du 8, celle du 7, hein, et qu'on s'est retrouvé place de la Bastille, place de la République, et qu'il y avait des flics partout et que ça commençait. Et qu'il y a une copine qui me dit « Ah, mais c'est bien, tu vois, enfin, on nous prend au sérieux. » Et moi, je trouvais ça moyennement bien parce que j'avais pas hyper envie de me prendre de la lacrymo sur la gueule. Mais elle avait raison. Enfin, il y avait quelque chose...
Ça, j'en suis persuadée. Ouais, ouais. Moi, vraiment.
Alors, donc, il y a de ça. C'est sûr qu'il y a de ça. Mais n'empêche, ça fait plaisir de se dire « Chouette, super, ils font juste un backlash. » N'empêche que, putain, il est violent, quoi.
Ouais, non, c'est rude, ouais. Ouais. Ouais, tout à fait.
Moi, ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport... À la place des femmes en politique, je trouve que non seulement elle est nécessaire, mais elle est complètement légitime. Et je reste persuadée d'une chose, c'est qu'il y a plein de choses que les hommes n'ont pas réalisées en politique, par rapport aux lois, par rapport à tout un tas de choses. Donc, s'ils ne l'ont pas fait, je me suis posé la question, pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Il y a plusieurs réponses possibles, comme d'hab. Ils n'en ont pas eu le temps, petit A. Petit B, ils n'en ont pas eu envie. Petit C, ils n'y sont pas parvenus. Alors, bah, nous, on y va et on va voir. Nous, on va voir ce qu'on... On va montrer ce qu'on est capable de faire.
Ah bah ça
nous
fait, aussi, oui, ça faire fait des millénaires.
C'est ça, l'égalité. Et je voulais juste raconter une anecdote. Tout à l'heure, on parlait de la presse. Je ne vais pas donner le... Même si je suis balance, ascendant balance, né le jour de la Saint-Just, je ne vais pas dire quel est le nom de ce grand quotidien féminin, pas féministe, hein, féminin. Un jour, on discutait autour de la couve et puis... Et moi, je leur dis, dis donc, ce serait bien pour une fois d'avoir une noire en couve. On n'a jamais eu de noire. Enfin, moi, je n'ai jamais vu de noire en couve. Et on m'a dit, on m'a regardé bizarrement comme si je venais de dire un gros mot ou comme si j'avais pété. Enfin, un truc énorme, quoi. Non, mais voilà, c'est pour dire le genre de regard que je me suis pris, genre, qu'est-ce qu'elle a dit, celle-là? Et là, quelqu'un me dit, mais ça ne va pas, non? Les noires, elles ne sont pas représentatives de la société française. Et là, j'ai dit, OK.
On ne vit pas dans la même société, en fait.
Pas vraiment, mais même pas dans le même monde, quoi. C'est-à-dire que, voilà, il y a plein de gens qui nous emmerdent, et j'espère qu'un jour, il y a des gens qui nous diront aussi merci pour tout ce que vous avez fait, toutes et tous, toutes surtout, depuis longtemps.
Je vous laisse l'applaudir. Je vais encore un peu foutre ma merde, mais en même temps...
Mais vas-y,
voilà, c'est intéressant dans un podcast qui est des débats et... Tu poses une question, Claudine, que je trouve intéressante, c'est de savoir si les femmes ou les féministes, c'est pas la même chose, hein, je redis, mais les femmes, est-ce que si les femmes rentrent en politique, est-ce qu'elles vont faire que les choses que les hommes n'ont pas fait, ce qui sous-tend comme question, est-ce que les femmes font de la politique différemment? Si on dit est-ce que les femmes font de la politique différemment, ça veut dire que l'on dit que les femmes sont différentes des hommes. C'est donc un argument différentialiste. Non, mais je ne dis pas que c'est ce que tu veux dire. Je dis que c'est la question qui est toujours présente. La vraie question, c'est est-ce qu'on dit qu'il faut qu'il y ait des femmes en politique parce que c'est juste, parce que c'est l'égalité, parce que c'est ça qu'il faut faire, ou est-ce que l'on dit les femmes doivent rentrer en politique parce qu'elles vont faire de la politique différemment? C'est ça que les féministes suffragettes françaises ont défendu des années 1880 au droit de vote, avec comme argument, il faut que les femmes votent parce que ce sera le vote de la paix contre les hommes qui font la guerre. Ce sera le vote du social contre les hommes qui font n'importe quoi dans le social. Voilà, le capital. Ce sera le vote contre l'alcoolisme, etc. Or, c'est un problème parce que ce qu'il y a derrière ce type d'argument, c'est que les femmes sont différentes des hommes et que dès que l'on met le doigt dans les femmes sont différentes des hommes, eh bien, en fait, on justifie toutes les exclusions et stigmatisations et violences dans lesquelles on nous enferme. Donc, moi, je suis... Alors, maintenant, si on dit universaliste, on a l'impression que c'est les horreurs qui sont en train de récupérer le nom d'universaliste. Donc, c'est de l'universaliste tel qu'il était défendu 19e siècle et 20e siècle, c'est-à-dire dire que les femmes doivent rentrer en politique parce que c'est égal, parce qu'elles sont des hommes comme les autres, donc des humains comme les autres, et qu'il ne faut absolument pas le justifier au nom d'une complémentarité homme-femme en politique, mais au nom de l'égalité. Et donc, on fera, s'il y a 50% de femmes, elles peuvent faire les mêmes conneries que les hommes, défendre le capitalisme comme les hommes, détruire la planète comme les hommes, ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est rentrer des écoféministes et des femmes de gauche. Quoi.
Nadéra ?
Pour abonder en ce sens, c'est vrai que moi, tout à l'heure, on parlait de figures qui portent le féminisme comme Sandrine Rousseau, mais la lutte n'est pas terminée. Je ne dis pas ça pour ma paroisse, mais il y a les législatives qui arrivent. Et je pense que c'est vraiment important aussi de se dire, voilà, je ne vais pas voter que pour une femme, mais de regarder des femmes qui ont des engagements véritablement en faveur du féminisme. Alors, bien sûr, un féminisme antiraciste, on ne va pas se répéter, intersectionnel, queer, etc. Parce que c'est pareil, on a le même phénomène avec les personnes racisées. Il ne suffit pas de mettre 3 noirs et 3 arabes. Et souvent, d'ailleurs, les partis ont fait monter des personnes racisées qui n'avaient pas d'engagement, qui n'étaient pas gênants sur ces questions. Moi, il n'y a pas très longtemps, on me parlait d'une candidate d'origine maghrébine. Je lui dis, est-ce qu'elle parle un petit peu d'antiracisme et tout ? Ben non, elle n'a pas besoin. Je montre la tête là pour les auditeurs et les auditrices. Elle est d'origine maghrébine, elle n'a pas besoin de parler de racisme. Vous imaginez si les femmes n'avaient pas besoin de parler de féminisme pour faire avancer, pour lutter contre les féminicides, etc. Donc c'est vraiment important, évidemment, de soutenir des femmes, mais des femmes qui ont des vrais engagements, y compris des personnes racisées qui ont des vrais engagements sur ces questions-là.
Tout à fait. Est-ce que vous voulez conclure ?
Moi, je voudrais juste ajouter que nous devons toutes et tous être attentifs aussi. Il y a plein de personnes qui se disent féministes. C'est pas parce qu'on le dit qu'on y est. C'est mon mot de la fin.
Ton mot de la fin, Mathilde ?
Je sais pas.
C'est bien aussi. C'est bien. Tu peux terminer sur une incertitude, hein, bien sûr.
Non, mais voilà. Stop Bolloré, fuck Zemmour. Enfin voilà.
Nadéra, petit mot de la fin pour toi.
Petit mot de la fin. Pour conclure, moi, je pense que c'est important d'investir le champ politique parce que pour défendre un universalisme concret. Moi, dans mon expérience de militante antiraciste, on veut toujours nous faire croire qu'on n'est pas des universalistes, on n'est pas des républicains, on veut casser la République en deux. En vrai, on veut juste défendre un universalisme concret qui n'est pas aveugle aux discriminations dont sont victimes les femmes, les personnes racisées, les personnes porteuses d'un handicap. Ouais. Etc.
Un universalisme qui n'est pas conçu pour les personnes spécifiques.
Dominants, voilà, qui n'est pas conçu pour les dominants. Et donc, on a besoin d'aller dans ces lieux de pouvoir pour dire, pour défendre un républicanisme et un universalisme concret et qui véritablement reconnaît les discriminations, les nomme et met en place des politiques pour arriver à plus de justice sociale. Voilà.
Merci beaucoup.